Vous êtes sur RTL.
Et nous retrouvons Stéphane Carpentier pour 2 heures d'info. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Ravi bien sûr de vous ouvrir les portes de RTL Soir. 2 heures d'info en direct. À commencer par le monde de la gastronomie française secoué par la décision du guide Michelin de retirer sa 3e étoile à l'auberge Bocuse du regretté Monsieur Paul. 3e étoile accordée sans discontinuer depuis 55 ans par le célèbre guide rouge. Consternation générale chez les autres grands chefs depuis ce matin car Bocuse et sa cuisine traditionnelle sont des institutions. Ce n'est pas une punition, assurait ce midi le patron du Michelin sur RTL.
Les étoiles du guide Michelin ne s'héritent pas, elles se méritent. Mmh. Et le classement du guide Michelin ne dépend pas non plus de l'aura médiatique d'un chef. L'histoire de Paul Bocuse et de Michelin a commencé il y a plus de 60 ans et elle ne va pas s'arrêter aujourd'hui.
Gwendal Polenek rejette l'idée d'un coup de com'. Dans RTL Soir, Jérôme Bocuse, le fils d'eux, va lui répondre. Interview exclusive de Jérôme Bocuse en ligne avec nous depuis les États-Unis. Ce sera à 18h15. Il est sous le choc, mais assure que les compteurs sont remis à zéro après ce déclassement surprise. Ça ne saurait enlever la part unique de Paul Bocuse dans la gastronomie française. Commentaire ce soir du président Emmanuel Macron. Soyez tous les bienvenus. RTL Soir, première édition, c'est avec vous Isabelle Choquet, bonsoir.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
Les autres titres.
Le siège de la CFDT envahi par des grévistes de la SNCF et de la RATP. Laurent Berger dénonce une intrusion violente avec insultes et agressions. Les intéressés démentent, nous serons sur place dans un instant. 8 ans de prison ferme au moins requis contre Bernard Prénat. L'ancien prêtre jugé pour des abus sexuels répétés sur de jeunes scouts a demandé pardon mais n'a pas convaincu. À suivre également le retour de la grippe aviaire, c'est la grande crainte de la coordination rurale, alors que le virus fait déjà des ravages en Europe de l'Est. Le ras-le-bol des pompiers, victimes d'agressions à répétition, ils réclament la protection de la police dans certains cas. Et puis, tristesse et désolation à Rio de Janeiro, les sites des Jeux Olympiques de 2016 sont fermés, un gâchis XXL. La Bourse de Paris, elle clôture ce soir en nette hausse d'1,02% à 6101 points. Les courses à Cagnes-sur-Mer, il fallait jouer le 7, le 14, le 9, le 5 et le 4.
Aux incontournables d'ici 20h, nous parlerons football tout à l'heure avec le journaliste Hervé Matou, ce sera à 18h30. Semaine politique avec Alain Duhamel, 18h50 et on défait le monde dès 19h15 avec Cyprien Signé et toute son équipe. Le temps, bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
Soyons clairs, le froid s'installe.
Oui, ça y est, on va avoir des petites gelées la nuit prochaine, moins 2 degrés attendus à Annecy, au lever du jour, moins 1 degré à Gap, il fera 0 à Saint-Etienne, 2 degrés à Rennes, 3 degrés à Paris et à Avignon, avec un ciel souvent gris en matinée, encore un petit peu d'instabilité des Alpes à la Corse, quelques flocons de neige en dessous de 1000 mètres en montagne et dans la journée ça va peu à peu s'arranger quand même, les éclaircies devraient souvent l'emporter, pour autant on aura une incursion aussi de nuages et de pluie à nouveau par l'Aquitaine en fin de journée et puis ça restera toujours un petit peu plus gris dans l'Est avec quelques flocons de neige sur les Alpes et sur les Pyrénées, les températures dans l'après-midi 6 degrés sur Belfort, 8 à Lille et Colmar, 9 à Paris, 10 à Pau, à Valence, à Brest, 15 à Nice.
Merci Valérie.
RTL Soir.
C'est un tweet de Laurent Berger qui a donné l'alerte un peu avant 14h. Quelques dizaines d'individus se sont introduits violemment dans les locaux de la CFDT ce midi. Ils ont agressé verbalement et physiquement des salariés. Par le même canal, un porte-parole de Sudrail a indiqué qu'il s'agissait d'une action surprise de la coordination RATP-SNCF pour dénoncer la position de Laurent Berger sur la réforme des retraites. Une vidéo a d'ailleurs été mise en ligne. Sur ces images, rien de violent, c'est plutôt bon enfant. Bonsoir Julien Fautra.
Bonsoir.
Vous vous êtes rendu sur place pour RTL, que s'est-il passé exactement?
Eh bien au sein de la CFDT, on n'a pas du tout perçu cette intrusion comme amicale, bien au contraire. Un salarié ici a même été plaqué au sol, des coups ont été échangés, ce qui n'apparaît pas dans les vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Il y a eu des insultes, des personnes prises à partie. Il était environ midi et quart, c'est par une porte de service que la trentaine de personnes entrent dans l'enceinte du hall de la CFDT en file indienne. Mais impossible de monter dans les étages parce qu'il y a des portiques. Alors, c'est dans ce hall qu'un discours est lu, que la tension finit par monter. Cela dure environ une demi-heure. À la CFDT, on incite au silence, pas de réaction au micro. C'est une consigne pour ne pas alimenter la polémique, ne pas créer une cascade de réponses. Me précise-t-on, une plainte devrait être déposée lundi matin. Mais ici, on s'inquiète avant tout des attaques à répétition contre le syndicat. La porte principale ici est bloquée depuis depuis plusieurs jours pour raisons de sécurité. Laurent Berger notamment et certains de ses militants, pour leur positionnement dans le conflit sur les retraites, reçoivent des courriers dégradants et sont devenus parfois la cible d'insultes sur les réseaux sociaux.
Julien Fautra en direct du siège de la CFDT pour RTL. Cette journée a également été marquée par le blocage du musée du Louvre à Paris. Une centaine de manifestants ont bloqué l'entrée de la pyramide aux grandes dames des touristes, très déçus évidemment de ne pas pouvoir entrer. Au 44e jour de grève, la mobilisation est de nouveau retombée à la SNCF. 4,6% de cheminots sont grévistes, 2 conducteurs de train sur 10. Ça se ressent au niveau du trafic. Nouvelle amélioration ce week-end, 9 TER sur 10, 8 Transiliens sur 10 et un trafic TGV quasi normal. À la RATP, 7 lignes de métro fonctionneront normalement. Comptez 2 trains sur 3 sur les lignes A et B du RER. Toutes les prévisions sont sur notre site rtl.fr.
8 ans de prison ferme minimum, vous le disiez en titre Isabelle, c'est la peine réclamée contre Bernard Prénat.
L'ancien prêtre est jugé pour des abus sexuels répétés sur de jeunes garçons, commis lorsqu'il était aumônier dans des camps scouts dans les années 70 et 80. 30 ans après les faits, ce sont des adultes qui sont venus témoigner à la barre, une dizaine en tout. Bernard Prénat leur a demandé pardon. Frédéric Perruche, vous suivez l'audience pour RTL au tribunal de Lyon. Ça n'a pas suffi à attendrir la procureure. Elle dénonce un prédateur compulsif.
Oui, la procureure, avec ferveur et conviction, ne mâche pas ses mots. Bernard Prénat est un pédophile en série, un pervers sexuel, manipulateur, autoritaire, tout-puissant, dominateur, qui avait une emprise totale sur ses petites victimes, François, Anthony, Benoît et tous les autres. C'est le procès des familles effondrées, des vies brisées, un dossier hors normes, stupéfiant, effrayant, désespérant. La réponse judiciaire doit être à la hauteur du calvaire enduré par les nombreuses petites victimes, des conséquences terribles sur leur santé, l'enfermement, malgré l'âge du prévenu, 74 ans doit être la réponse. Au moins 8 ans, requiert la procureure. Anthony, une des victimes, soulagée.
Moi, je veux qu'il aille en prison, qu'il soit le plus longtemps possible, surtout pour qu'il réfléchisse à toute la souffrance qu'il a créée, en fait, avec ses envies et ses plaisirs pervers. J'espère qu'il aura la peine maximale, ça c'est sûr.
8 ans de prison, c'est démesuré, estime pour sa part Maître Doyer, l'avocat de Bernard Prénat, consterné par ce réquisitoire.
Je pense que c'est quelque chose qui est assez brutal. C'est une peine très lourde. C'est vrai qu'il était un peu complètement, je ne vais pas dire assommé, mais c'est un peu son sentiment.
À la fin de l'audience, Bernard Prénat a une nouvelle fois demandé pardon aux victimes. Le jugement sera rendu le 16 mars prochain.
Frédéric Perruche en direct du tribunal de Lyon pour RTL.
J'aime le beurre, la crème, le vin et pas les petits pois coupés en quatre. Voilà ce que disait Paul Bocuse, légende de la gastronomie française.
Oui, mais voilà, cette cuisine-là ne fait plus frétiller les papilles des inspecteurs du guide Michelin. Le célèbre restaurant de Collonges-en-Bon d'Or vient de perdre sa 3e étoile qu'il détenait depuis 1965 non-stop. Cette décision suscite beaucoup d'émotions, de l'indignation parfois. En tout cas, elle ne laisse pas indifférent jusqu'au sommet de l'État. Écoutez la réaction d'Emmanuel Macron.
J'ai une pensée pour la mémoire de Monsieur Paul, sa famille. Le président de la République, il n'est pas là pour refaire les classements des uns des autres. Il y a des règles et chacun est maître de ça. Mais je veux avoir une pensée pour ce qui représente sa famille, pour tous ceux qu'il a formés. Et ça ne saurait enlever la part unique de Paul Bocuse dans la gastronomie française. Et quand on défend nos agriculteurs, on défend aussi l'ensemble de cette chaîne d'artisans qui transforment les produits, qui les servent, de tous ces métiers de la gastronomie et de la table. Et donc je veux continuer à célébrer cette excellence et j'aurai l'occasion aussi de célébrer tous ceux qui, avec le Bocuse d'Or, la célèbrent, comme je le fais chaque année.
Emmanuel Macron, c'est un document RTL au micro de Jacques Seret. Voilà donc l'auberge de Monsieur Paul, simple 2 étoiles si on peut dire. Mais au fond, au-delà du symbole, perdre une étoile, est-ce si grave? Voyons ça avec le reportage RTL de Yannick Collant à l'auberge de Lille, grande table alsacienne qui a perdu elle aussi sa 3e étoile l'année dernière.
Devant l'auberge de Lille, un panneau routier indique une seule direction, Collonges-en-Mont d'Or, 432 km. Le chef Marc Eberlin était un proche de Paul Bocuse. Il avait perdu sa 3e étoile l'an dernier, mais aujourd'hui son restaurant ne désemplit pas.
Tout se passe bien, on a les clients, on a un soutien incroyable. Dans la cuisine, ça n'a rien changé. Vous savez, un chef ne peut pas changer de technique de cuisine d'un jour à l'autre. Je tiens absolument à garder l'esprit de la maison, comme la mousseline de grenouille ou le saumon soufflé ou la truffe sous la cendre. Et puis la maison, je touche du bois, a la chance d'être pleine tout le temps, comme ce midi au mois de janvier. C'est l'essentiel.
L'auberge de Lille reste un monument de la gastronomie pour les clients comme Marlène et Christian qui en ressortent un grand sourire aux lèvres.
C'est vraiment exceptionnel parce que c'est le jour de mon anniversaire et c'est mon cadeau de Noël. Ça reste mythique.
Parmi les plats que vous avez dégustés ce midi, lequel vous a le plus marqué?
La cuisson des côtes d'agneau, fondant, voilà.
Pour nous, je ne sais pas pourquoi il y a 2 étoiles, mais 4, ça serait le minimum.
Marc Eberlin n'en demande pas tant, mais il le reconnaît. Il a redoublé d'efforts avec son équipe pour récupérer sa 3e étoile, celle qui ornait son restaurant pendant 52 ans.
Le reportage RTL de Yannick Collant à l'auberge de Lille.
Et donc les premiers mots et la première réaction de Jérôme Bocuse, le fils de Monsieur Paul, c'est sur RTL ce soir et c'est dans moins de 10 minutes. Restez bien avec nous dans un instant, la suite du journal d'Isabelle Choquet avec une nouvelle alerte à la grippe aviaire.
RTL soir, 18h10.
RTL soir.
18h11, RTL Soir, Stéphane Carpentier pour la suite du journal Isabelle Choquet.
C'est l'éternel retour, Isabelle. La grippe aviaire menace à nouveau notre pays.
Oui, le virus est déjà actif dans plusieurs pays d'Europe de l'Est et désormais il pourrait réapparaître chez nous et mettre en danger une fois de plus les élevages de volailles et les producteurs de foie gras. Bernard Lannes, le président de la coordination rurale, demande aux autorités des mesures d'urgence.
On sait que la grippe aviaire, elle arrive l'hiver généralement et que, notamment en Pologne, il y a bien un foyer qui vient des migrateurs puisqu'ils ont trouvé des migrateurs morts porteur de H5N8. Donc, nous, c'est ça qui nous inquiète, parce que la France, pour l'instant, n'est pas touchée, et ce qui veut dire qu'il faut qu'on soit très vigilant, parce qu'on sait que c'est très pathogène. Nous, on réclame tout simplement déjà une vigilance accrue avec les échanges entre ces pays-là, parce qu'on rappelle que, quand même, il y a beaucoup de l'agroalimentaire français, notamment de la coopération française, qui a exporté une partie de la production qui est là-bas, et donc on a des poussins, on a des canetons, il y a quand même beaucoup d'échanges, et on veut une vigilance accrue. Là, il faut quasiment interdire tout mouvement de volailles vivantes, parce qu'on sait que dans le transport, même la désinfection peut pas être parfaite et qu'une tête d'épingle de déjection de canard dans un garde-boue peut rester active pendant au moins 3 semaines. Et donc, si elle retombe en France après l'élevage, comme ça s'était déjà passé, c'est le feu dans toute la France, quoi.
Bernard Lannes de la coordination rurale, joint pour RTL par Odile Pouget. Les pompiers en ont ras-le-casque. Depuis plusieurs mois, ils sont de plus en plus victimes d'agressions en intervention. Aujourd'hui, ils étaient près d'un millier à manifester à Strasbourg avec un cercueil en tête de cortège. Ils demandent notamment à être protégés par la police lors de certaines opérations sensibles. Parmi ces manifestants, Julien, blessé début décembre, il a été agressé par les proches d'une personne qu'il venait secourir après un malaise.
On sent qu'il y a une personne qui nous en veut, déjà par le regard, ensuite par les mots, et puis en 30 secondes, ça part, il en vient avec les mains et menace de nous jeter par la fenêtre, et on vient tout de suite à vouloir nous jeter des objets qui se trouvaient sur la table. Moi par exemple, j'ai dû le maîtriser, il visait directement mon collègue, j'ai fait ce que je pouvais pour sortir, et c'est là qu'il s'est retourné forcément contre moi, et je me suis protégé des coups, et que j'ai été blessé au pouce, j'ai eu un plâtre pendant 3 semaines et 5 semaines d'arrêt au total. On part pour quelqu'un qui fait un malaise, on vient pour aider la personne et en fait on se fait recevoir de cette façon. C'est assez, enfin pour nous c'est assez récent, ouais. Ça monte à une vitesse, on voit là rien qu'au mois de décembre, janvier, le nombre d'agressions, rien, ne serait-ce que dans le département du Bas-Rhin, c'est juste impensable.
Isabelle, nous partons maintenant au Brésil avec un triste constat. Il ne reste rien des Jeux Olympiques de Rio.
Toutes les installations ont été fermées faute de certificat de sécurité. En effet, les sites se sont abîmés depuis 3 ans. Ils ont été utilisés pour des spectacles ou des concerts, mais sans beaucoup de surveillance. Un véritable gâchis puisque ces infrastructures avaient coûté plus de 11 milliards d'euros. À Rio pour RTL, Sarah Cozzolino.
Aline Dos Santos est athlète olympique et n'a aucun espace pour s'entraîner pour les JO de Tokyo où elle espère courir le 4x400 mètres. La fermeture des sites olympiques de Rio l'attriste mais ne la surprend pas.
Le pays n'en a rien à faire. Nous les athlètes, on n'est pas considérés du tout. C'est une honte. Ils auraient pu faire une piste d'athlétisme dans cet espace énorme, mais ils n'ont rien fait.
La ville de Rio, en état de crise, n'a pas assez d'argent pour maintenir le projet pharaonique pensé pour les JO de 2016. L'architecte Rodrigo Azevedo avait participé au début du projet, pensé comme un ensemble olympique et résidentiel. Mais pour lui, il n'y a finalement pas eu de vision à long terme.
C'est toute la ville de Rio de Janeiro qui va être affectée en perdant ses équipements. C'est la conséquence de la modification d'un projet de qualité pour mettre le profit au-dessus de tout.
La cité olympique accueille aussi des événements privés, dont le plus grand festival de rock d'Amérique latine. La mairie de Rio a annoncé qu'elle ferait appel de la décision.
Sarah Cozzolino à Rio pour RTL. Le foot suite ce soir des 16e de finale de la Coupe de France avec une belle affiche à 21h05. Le petit club de Granville reçoit Marseille, ça se passe à Caen. Netflix est de retour en France. La plateforme américaine absente depuis 4 ans de l'Hexagone inaugure en ce moment même ses nouveaux locaux parisiens entre Opéra et Madeleine. À la clé, 100 millions d'euros d'investissement dès cette année et des productions prestigieuses, notamment un film de Jean-Pierre Jeunet, Big Bug avec Elsa Zilberstein et une série Arsène Lupin avec Omar Sy. Et puis puis on termine avec cette dernière minute, on l'apprend à l'instant. Jean-Paul Gaultier annonce que son défilé haute couture de mercredi à Paris sera son dernier. Et ça, ce n'est pas rien tout de même. Grand nom de la couture, Jean-Paul Gaultier.
Absolument, 68 ans cette année 2020, Jean-Paul Gaultier. On y reviendra bien sûr dans RTL Soir. Merci Isabelle. Revenez tout à l'heure 18h30 pour toute l'actualité du vendredi. On va passer un coup de fil dans un instant à Jérôme Bocuse, le fils de Monsieur Paul, et avoir son sentiment après le déclassement surprise de l'auberge Bocuse des Bords de Saône, qui se voit retirer sa 3e étoile par le célèbre guide Michelin. Première réaction ce soir sur RTL en exclusivité. À tout de suite.
RTL Soir 18h16.
Sur les réseaux sociaux, réagissez à l'actualité avec le hashtag RTL Soir.